La question de Michael.
C'était comment, le thème, c'est comment choisir sa femme. Et précisément, c'était est-ce que c'est selon les midot?
Pardon?
Est-ce que c'est selon les midot, la qualité de cœur? Si oui, est-ce qu'il y a une mida en particulier? Ensuite, est-ce que c'est... Oh, faut chercher des midot, c'est toujours dans le même ordre d'idée. Hein. Si c'est les selon les midot, est-ce qu'il faut chercher des midot opposées à celles qu'on a? Ou les mêmes midot? Et enfin, comment les vérifier? Par exemple, parce que, en général, les femmes, si elles ne sont pas mariées jeunes, elles commencent à s'inquiéter, donc elles ne vont pas accepter par défaut. En gros, elles ne vont pas se dépêcher et dire oui. Voilà, donc comment vérifier les bonnes lunettes, quoi?
C'est pas pour une femme?
Oui.
Un homme qui vérifie la femme, justement.
Elle vérifie une femme, une femme qui n'est pas mariée, qui est âgée, donc elle risque de...
D'accepter, de dire oui, j'ai telle lunette, par exemple. Alors que, voilà, pour se dépêcher de se marier, quoi.
Parce qu'elle, elle va raconter des histoires, comme quoi...
Voilà, comment vérifier, comme surtout les femmes, si elles sont pas mariées jeunes.
Bon, il est très clair que... Même quand on est honnête, dans un chidour, on ne va pas dévoiler tout son linge sale. Tout petit peu. Bon, alors, là, il y a beaucoup de questions. La première question, c'était quoi?
Comment choisir sa femme?
Ok. Comment choisir sa femme? Ok, alors d'abord, au niveau de la technique... Il faut être d'abord faire marcher la raison et après le cœur. Ce n'est pas ce qu'on appelle un mariage de raison, c'est un mariage de raison et de cœur, et dans cet ordre. Si on fait marcher le cœur d'abord, une fois qu'on est bien branché, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment elle qui est pour moi? On est déjà incapable d'être raisonnable et on va dire oui, alors que franchement, c'était l'erreur à ne pas faire. Donc d'abord la raison. Ensuite, s'il n'y a que la raison, et il n'y a pas le cœur, alors on ne se marie pas parce qu'au niveau des critères, tu corresponds à ce qu'il faut. Il faut qu'il y ait du sentiment. S'il y a les deux, c'est le bon numéro, on peut être certain que c'est le désir de Dieu. Ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas du travail après le mariage, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas les divorces, parce que Dieu veut qu'on travaille. Le mariage, la raison numéro un du mariage, c'est le travail. C'est quoi? C'est apprendre à devenir quelqu'un qui peut aimer, c'est-à-dire donner de lui-même, et c'est dur de donner. Il faut changer ses midotes. Alors, au niveau rationnel, comment doit se faire le choix? Alors, la réponse orthodoxe, pure et dure, elle dit deux critères. Yirat Shamaim et Midot Tovot, c'est-à-dire la crainte de Dieu, dans quelle mesure elle a une conscience de l'importance de la Torah. Il faut que cette mesure soit la même que la nôtre. Si c'est une super tzedeket, et moi je suis très moyen, ça fera des problèmes. C'est le contraire, idem. Si t'es un super sadique, prends un super sadique. Si t'es un moyen, prends un moyen. Si t'es un idiot, prends un idiote.
Ça peut nous élever si on...
Oui, oui, ok, alors, il y a toujours quelqu'un qui est un peu plus, un peu moins, et, alors on peut, mais si maintenant c'est comme ça, c'est très éloigné, ça crée des déséquilibres qui sont très... Déjà, un couple, c'est dur à tenir comme ça. Au moins qu'on part sur des bases... Je parle a priori, dans un cas où je me conseille, il faut comprendre. On ne va jamais trouver le top modèle qui me va avec tous les critères 100%. Il y a toujours des choses très bien et des choses un peu moins bien. Maintenant, quand c'est un peu moins bien que mon idéal, ça va. Si je mets la barre trop haut, je vais jamais me marier. Donc je dis oui. Maintenant, si c'est beaucoup trop bas, par rapport à mes critères à moi. Tout dépend aussi maintenant, quelle est la pression que j'ai de me marier. J'ai 20 ans, j'ai aucun problème. Bon, ça va, je peux attendre encore, j'ai de mes critères. J'attends qu'ils interviennent, des critères normaux. Hein, des gens qui ils vivent dans, je ne sais pas, je connais un type, il a bientôt 60 ans, il attend encore la religieuse tzadeket, parfaite millionnaire, blonde. Et il l'aura pas. Il me dit, je l'aurai. Il a 60 ans. Hein. Et je crois qu'il a une vie de 22 ans. Encore un des critères. Bon, c'est pas normal. D'accord. Mais quelqu'un qui a des critères normaux, alors on peut dire dans la phase encore de ce qu'on appelle l'echatrila. Ça veut dire, je suis encore dans, a priori, je veux une fille comme ça, qui a pris ses critères. Ça va. Tu as 30 ans. Ça fait 10 ans que tu fais des shidduchim. ton abattoir est au 200e shidour. Ça presse. Ce qui signifie, c'est encore plus pressant parce que, au bout d'un moment, une fille ne peut plus amener d'enfants dans le monde. Donc là, il faut commencer. On rentre dans ce qu'on appelle un diavad. Diavad, ça veut dire, OK, le a priori, je peux l'avoir. Je prends maintenant, je ne vais pas appeler ça seconde classe, mais je suis prêt maintenant à mettre un peu d'eau dans mon vin. Je vais, comment penser, je passe l'éponge sur pas mal de critères qui étaient à l'époque importants. Aujourd'hui, je comprends que si je veux me marier, il faut que j'enlève quelques-uns des critères. Donc moi, je parle maintenant dans l'echatrila. Bediavad, tout dépend du diavad, c'est pour à quel point c'est pressé, tu comprends. Alors, l'echatrila, il est mieux d'avoir un conjoint qui est de même niveau que nous au niveau religieux. Parce que le couple, en soi, c'est une chose qui est déjà difficile. L'homme et la femme sont totalement différents. Il y a un panneau, comme quoi, avant le mariage, on s'entend sur tout. C'est un panneau que Dieu fait pour que les gens tombent bien dedans. Puis après, on voit que ça n'a rien à voir. D'accord, c'est une femme. C'est un homme. L'homme, il réfléchit comme ça. La femme, elle va comme ça. C'est-à-dire, la femme, elle est intérieure. L'homme, il est plutôt cartésien, extérieur. La femme, elle dit pas. L'homme, il dit, pourquoi tu dis pas, etc. Bon, c'est comme ça. Elle pleure. Faut deviner pourquoi elle pleure. T'as dit un mot il y a 5 ans. Maintenant, tu leur dis le même mot. Dis oui, il y a 5 ans aussi, tu m'as fait la même chose. Ça m'a pleuré. D'accord. Bon, c'est une femme, c'est une femme. Un homme, c'est un homme. Ce sont deux entités différentes. Donc, il y a déjà pas mal de différences comme ça. Si tu veux encore rajouter maintenant la différence de religiosité, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce que, comme je suis en train d'expliquer maintenant, le mariage suppose qu'il faut s'écraser. Pour donner, il faut s'écraser. Je peux m'écraser. J'aurais voulu aller au resto ce soir, elle veut pas. Ok. J'ai pas envie d'aller au resto ce soir, elle veut. Ok. Bon, c'est qu'un resto. Descends les ordures, fais la vaisselle, viens chez ma belle, chez ma mère, encore le 10e Shabbat 2 fois. Je peux m'écraser sur tout. Carpette, d'accord? Pour ma femme, je suis prêt à donner beaucoup. C'est bon. Elle va commencer à dire, mangeons cachère, niveau moins bon. Allons, je sais pas moi, une robe, pas très au niveau pudique que nous acceptons. Ou n'importe quelle chose qui va toucher déjà maintenant Dieu et sa volonté. Je peux moi m'écraser, parce que le restaurant, la belle-mère, laissant les ordures, c'est au niveau de mon honneur, au niveau de mes pulsions, d'accord, je m'écrase. Mais comment je peux m'écraser au niveau de la volonté de Dieu? C'est très dur. Parce que moi, je veux bien m'écraser, mais comment je peux faire une chose qui est contraire à la volonté de Dieu? Donc là, on dit stop. Alors, c'est pas toujours stop. Des fois, Dieu veut aussi que pour la paix dans le couple, on fasse quelques concessions. Mais on ne peut pas non plus faire trop de concessions. Et là, le débat est beaucoup plus dur. Parce que je peux pas, même si je veux être gentil, je peux pas. Je veux bien, mais je peux pas. Elle comprend pas, mais dit, mais t'es un fanatique, moyenâgeux, orthodoxe, noir, ghettoïste, ouais, bon, tout ce que tu veux, d'accord? Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Donc, encore une fois, bediavad, on pourrait accepter une chose pareille aussi, en acceptant. Il y a des cas, des jeunes filles de 32, 33, 35, 36... On lui dit, écoute, le type, il fait Shabbat, il met les tefilines, il fait sa prière, il mange kasher, vas-y, c'est bon. Tarta mishvacha, c'est bon. Elle voulait un avraire froum, machin. Ok, marie-toi. Au moins tes enfants, tu auras un couple, tu auras quelque chose, sinon, là, il n'y a plus rien. Bientôt. Tout dépend du diavad. Je vais voir maintenant dans l'echatrila. A priori, elle en demandera qu'il y ait une irat shamaim, un respect des valeurs de Torah qui soit plus ou moins égalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les midot. Ça, c'est la réponse orthodoxe. La réponse orthodoxe, à mon humble avis, n'est pas adaptée à la France. Comme vous savez, les Français sont des tordus. Mais ils sont tordus qu'on ne peut pas rendre droit. Ils sont tordus. Ça n'a rien à les droits, il est tordu. D'accord? Et le niveau physique, au niveau physique de la femme, c'est très, très à la puissance 1 milliard, important pour l'homme. Même qu'il se travaille, il t'enlèvera quelques traits, il en reste quand même quelques centaines de millions. D'accord? Donc on ne peut pas dire, comme disent des grands de la Torah, il y en a des, moi je ne vais pas citer son nom, des très grands de la Torah, je lui ai dit, voilà, pour j'ai dit c'est machin, tout ça, il m'a dit, c'est ta question. Yirat Shamayim, Midot Tovot. Physique, quoi physique? Qu'est-ce que ça veut dire physique? Quoi physique? Je ne vais pas demander comme ça, mais ça n'existe pas, c'est des gens qui sont... C'est pas le cas de la France. D'accord? Alors le physique aussi doit plaire. Le critère orthodoxe nouveau, il dit, tant que ça ne repousse pas, ça va. Tu demandes à quelqu'un quels sont les critères importants. Tu dirais, critère important, quel est une rachamaim, quelle est une bonne midot physique, pour nous, ce n'est pas important. C'est une réponse intelligente, mais pas adaptée à des gens pour qui le physique, c'est une impasse. Donc on doit faire avec. D'accord? Quelqu'un qui était éduqué, et il y en a, ça existe encore pas beaucoup, mais il y a encore quelques endroits, une espèce en voie d'extinction, d'hommes qui, pour qui le côté physique n'a relativement pas d'importance. Mais c'est hélas une espèce en voie d'extinction, chez les femmes aussi d'ailleurs. Donc le physique fait aussi partie. Alors, quel est le critère? On ne dira pas, tant qu'elle ne repousse pas, il faut qu'elle te plaise. Voilà.
Sinon, au niveau des différences de degré de niveau spirituel.
Oui.
Rana, par rapport à son mari, était beaucoup plus. Une manière beaucoup plus haute.
Alors. Encore une fois, je te parle a priori. A priori, c'est pas bien qu'il y ait un déséquilibre. Je répète la question peut-être. Toi, tu te poses la question. On voit Hana, la femme de Elkana, la mère de Shmuel, à un degré plus haut que Elkana. Il n'y a pas de problème. Ça peut marcher. Pas vrai que j'ai dit en diavade, ça marche. Mais a priori, pourquoi rentrer dans cette galère? Prends un exemple du même type. Une femme, ça arrive, qui est beaucoup plus brillante au niveau cérébral, au niveau intellectuel, que son mari. Beaucoup de femmes pourraient être très dures. Mais une femme véritablement intelligente, elle saura comment faire suffisamment d'honneur à son mari pour pas que par le fait qu'elle est beaucoup plus brillante, elle l'écrase. Elle peut l'écraser. Mais t'es un nul, tu comprends pas ce qu'on te dit. D'accord. Et un homme, tu lui dis ça, c'est mort, c'est fini. Parce qu'un homme, il a sa place dans le couple, c'est nécessaire. Son couple est ébranlé. Alors, une femme bête, intelligente, mais bête, d'accord, intelligente au niveau cérébral, mais bête dans la pratique, elle va l'écraser. Une femme intelligente, mais intelligente aussi dans Chochmat Chaim, de sagesse de vie, elle saura comment aussi carpette pour remonter son mari. Ça existe beaucoup de cas. De même, dans ta question, une femme qui a beaucoup de Rech Shamaim, qui saura être intelligente, pourra faire monter son mari. Mais si elle va utiliser maintenant le fait qu'elle est plus forte que lui en Torah, et ça va créer un déséquilibre dans le couple où elle joue le rôle du supérieur, du prof, du rabbin dans la maison, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que ce soit à égalité. Ça, c'est pour, donc, en préambule. Donc, trois conditions pour les Français. Yirat Shamaim, les midot, et le côté physique aussi. Pas mettre la barre trop haut. Pas mettre, c'est vrai, vous êtes assailli toute la journée par des pubs et des images. Ta femme ne sera pas comme dans la pub. Et si oui, je ne te conseille pas de te marier avec elle. Parce qu'une femme qui est trop belle, elle a des complexes terribles. Une femme qui est belle ne peut pas faire 10 mètres dans la rue sans se dandiner. C'est impossible. Imagine qu'on te regarde sans cesse. Dis-toi dans la rue, tout le monde te regarde. Ça agit sur ton... Tu dois être un ange pour pas être influencé. Une femme qui est belle, elle a un complexe grave. Quand je ne dis pas complexe, c'est un complexe d'infériorité, de supériorité, un complexe de beauté, d'accord? Elle sait qu'elle est regardée, c'est dur à vivre un truc pareil. Pourquoi te rentrer dans cette galère? Prends une fille mignonne, ça va, bien, jolie. Belle, mais pas top modèle qu'il y a sur les photos. Déconseillé. À mon humble avis.
Quand on avait un moment, à un certain âge, on était en diabète. Pourquoi il ne vaut mieux pas directement être en diabète?
Mais diabète, ça veut dire...
C'est dommage d'arriver à un certain âge.
Il faut être intelligent.
Si on sait qu'on va arriver à un diabète à un moment...
Tout dépend de la pression. Tu peux aussi avoir un diabète à l'âge de 22 ans. Moi, j'ai ici maintenant, voilà, un Baal Tshuva. Il a... je parle de façon hypothétique, d'accord? Admettons que j'ai un Baal Tshuva maintenant. Lui, il a fait les 400 000 coups avant. Donc, une semaine sans fille, déjà, il est en état de manque grave. D'accord? Il tient ici un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, il sent qu'il va éclater. D'accord? Tout ce qui passe féminin qui bouge, il prend. D'accord? Ça, c'est pas un diavad. Il peut avoir 22 ans. Il peut avoir 22 ans. À quel point ça te presse de te marier? C'est ça un diavad. C'est tout.
cette raison-là qu'il ne faut pas se marier.
Et ça fait partie aussi, ok. Et c'est pas non plus. Bon, alors nous, alors c'est certain que lui aussi devrait être intelligent. Comprendre, c'est pas une décision que je prends pour une nuit, c'est une décision pour toute ma vie. Voilà, ma zéro, voilà, ma bas. Il n'est pas idiot, mais il sera peut-être prêt à baisser un peu son standard parce qu'il a une pression. Je ne dis pas qu'il va prendre n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'il avait n'importe quoi. Lui, c'est bête. Lui, c'est pas bête. Lui, il dit, je suis d'accord. Il dit, bon, quoi, ça va.
Il le dit sur l'influence
du Dieu décide, c'est pas grave. Il ne faut pas, non plus, il n'est pas idiot. Idiot signifie qu'il prend, comme je dis, le propre truc qui bouge féminin, il prend. Je ne parle pas de ça. Il va être un peu plus intelligent. Mais il sera prêt à passer l'éponge sur des critères qui, à un temps, auraient été intelligents. Lui voulait une blonde. Elle n'est pas blonde, elle est noire. D'accord. Mais tout, à part ça, tout va très bien. Alors, si tu avais tout le temps, et ça presse pas, bon, attends que la blonde, elle tombe, d'accord. Elle arrive un beau jour. Mais il est pressé, il n'a pas le temps, il dit, j'ai pas le temps. Toi, tu dis, t'as le temps, ok. Lui, j'ai pas le temps, il vient toujours dans mon bureau, toc, toc. Alors que Vodara, elle est arrivée. Alors, pas encore. Bon, je repasse ce soir. Ce soir, je repasse encore à 11h, d'accord. Alors, il y a quelque chose. Alors, il est pressé, le type.
Il travaille sur lui-même.
Tu as compris.
Il travaille sur lui-même.
Il travaille, il n'arrive pas. Ça n'existe pas. Bon, alors, tu connais pas la réalité, mon cher ami. Jean-Claude, il dit qu'il faut beaucoup, beaucoup s'éloigner des femmes. Les commentateurs posent la question, pourquoi? Pourquoi s'éloigner beaucoup des femmes? C'est marqué, si on prend le peuple d'Israël, c'est marqué, la minorité font des péchés sexuels, la majorité font du vol, et la totalité font du avak lachonara, de la poussière de lachonara. Donc on va beaucoup s'éloigner de parler avec les gens, parce que tout le monde tombe dans le lachonara. De très s'éloigner maintenant de tout ce qui appartient au prochain, de pourquoi on va voler. Or, c'est pas marqué qu'il faut beaucoup s'éloigner de parler, beaucoup s'éloigner des choses des gens. C'est marqué qu'il faut beaucoup s'éloigner des femmes. Dans le commentaire, pourquoi? Les femmes, on voit que c'est le danger le plus petit. Répond le commentateur et disent oui. C'est vrai qu'au niveau de la population, t'as une minorité qui va faire des péchés adultères, des choses comme ça. Mais quand t'as touché à ça, ils disent, c'est très très dur de s'en sortir. Toi, d'après comme tu me parles, je vois que t'étais pas trop addicted, t'es pas trop accoutumé à ce genre de choses. Quelqu'un qui était accoutumé, d'accord, aux drogues dures, c'est très, la désintox, elle est très, 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 très difficile. Il n'y a pas plus dur que ça. Pas plus dur que ça. C'est très dur. T'as des pulsions énormes, énormes. J'ai un élève, ancien toxicomane, et dans les deux. Et là-dedans, et avec les femmes, d'accord. Bon, là, Yeshiva, il commence un mois, deux mois, il entend deux bonnes femmes dans la rue qui passent, qui rient. Il s'est levé comme ça, il est sorti dehors, on a dû l'attraper, il ne pouvait pas, c'était impossible. Aujourd'hui, il habite à Ramos, c'est un grand Amisraham aujourd'hui. Mais c'était terrible, un rire de femme. Un rire de femme. Ni vu, rien qu'entendre d'un rire de femme. Le type, il a les nerfs à fleur de peau. Alors toi, tu parles maintenant, qui se retient. Ok, ça va. Chacun jugera à quel point ça lui fait mal, à quel point il veut se marier rapidement. Ok, maintenant j'arrive au point. Les midot. Bon, chacun, d'après ses affinités, il y aura des midot qui lui correspondent plus. Il y aura un qui ça sera, je ne sais pas, la droiture, au maximum. Un, ça sera le chesed au maximum. Un, ça sera la pudeur au maximum. Un autre qui sera le au contraire, le militantisme, d'accord. Ça, il y a déjà chacun au niveau de ses affinités, il verra qu'est-ce qui lui va. Mais en général, quand on parle de midot tovot, il y a peut-être une mida qui regroupe tout, qui à mon avis est vraiment, à mon humble avis, est la mida nécessaire et la plus importante pour un couple, ça s'appelle la gentillesse. La gentillesse, c'est le regard bienveillant vers l'autre, le bon vouloir d'aider l'autre, le facilement accepter de s'écraser pour l'autre. La gentillesse. Normalement, un homme qui a une femme qui est gentille, il est heureux. Même si des fois elle n'est pas contente, même si ça peut hurler, même elle est gentille. Une femme qui n'est pas gentille, c'est dur. Donc mesdames, mesdemoiselles, faut être gentille. Mesdames aussi, avant un point de mariage, c'est important. Messieurs aussi, la gentillesse est une chose qui est très importante. quand on parle de bonne midote, on parle en général de cela. La droiture aussi, il est nécessaire dans un couple qu'il y ait une confiance. S'il n'y a pas de confiance dans le couple, il n'y a plus rien. Or, si une femme elle est menteuse, tout ce que je dis maintenant, femme, homme, d'accord, c'est réciproque. Quelqu'un qui est menteur, si une fois ta femme t'a menti, c'est fini, toujours tu auras le doute, peut-être me mentir aussi. Vous aussi, messieurs, il ne faut jamais mentir à sa femme. À part dans les cas où il faut. On a le droit de mentir pour ne pas dire du lashon hara. On a le droit de mentir si des fois la femme est curieuse de savoir mieux ton passé. Or, t'as un passé que mieux qu'elle ne sache pas. Ça ne sert à rien de rentrer dans les détails. Donc, tu dis, ou éviter. Tout ce qui pourra amener l'appel au niveau du mensonge, ce n'est pas marqué tu ne mentiras pas. Il est marqué tu t'éloigneras d'une chose de mensonge. C'est quoi une chose qui n'est pas vraie mais qui amène le mal. Quand un mensonge amène le bien, c'est permis. Le bien, c'est la paix. Donc il y a des cas où c'est marqué on a le droit de mentir. Non, non, quand tu mens pour magouiller l'autre, pour profiter de l'autre, pour cacher des choses à l'autre de peur que. Ça mène le mal. Mais si maintenant c'est caché pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait le bien, très bien. Ta mère t'a dit, chaque fois que je vois ta femme, je me demande comment tu as pu faire une bêtise aussi grande. Tu rentres à la maison, ta femme te dit, alors qu'est-ce qu'elle a dit ta mère ? Elle dit, à chaque fois qu'elle te rencontre, elle m'a dit, elle se demande quel bonheur, quelle chance j'ai eu de trouver une femme aussi bien que toi, chérie. Vas-y, avec le tampon du rabbin. C'est pour la paix. Ça s'appelle un bon mensonge. Permis, conseillé. Pour la paix. Alors, les autres questions, qu'est-ce qu'il y avait ? Complémentaire ou pas ? Alors, tout dépend quoi ? Quelqu'un qui est gentil, c'est pas très bien qu'il y ait un conjoint qui soit méchant. D'accord ? Alors, ça c'est clair. Calme et plutôt excité. Il y a les deux options. Il y a deux options. Il y a des couples qui marchent très très bien, ou un c'est un super flegmatique, et l'autre c'est une bombe à retardement. Ça peut marcher très bien. D'autres, au contraire, la bombe à retardement, ça ne peut pas supporter le flegme de son conjoint. Ça, c'est chacun au niveau de ses. Les orgueilleux, on leur souhaite, s'ils veulent vivre une vie facile, alors un conjoint humble. Mais Dieu veut que l'orgueilleux ne reste pas orgueilleux. D'habitude, il lui met avec lui une orgueilleuse. Comme ça va être terrible. Ils seront obligés, pour arriver à un modus vivendi, à la paix, de s'écraser. Et ça, j'en ai vu, et ils bavent. Ils bavent, mais ils apprennent. Entre parenthèses, ça n'a rien à voir, mais ça peut avoir quand même. Une des choses que les femmes ne comprennent pas, et j'ai eu un cas dernièrement dans mon bureau, et ça je le répète à mes élèves, ils ne comprennent pas, parce que c'est après qu'ils viennent à mon bureau, marié, papa. Une femme ne comprend pas, dans sa logique, elle ne peut pas comprendre une chose pareille, comment l'homme ne se lève pas le matin. C'est un truc qui ne rentre pas. Dans les formations avant le mariage, on dit cela au mari. Mais d'habitude, ça rentre par là, ça sort par là. Alors, travaillez-vous maintenant, messieurs, parce que je ne serai pas là pour vous réveiller après. Et les élèves que j'ai eus et que je, moi, sortais du lait, parce que le seul au monde qui pouvait sortir du lait, c'était moi-même, la femme n'a pas réussi après. Et ça fait des scandales terribles. La femme ne comprend pas une chose pareille. Comment à 10h, tu es encore dans ton lit ? Et la prière ? Hein ? Pardon ?
Elle
n'a tout à fait pas tort. T'es un crétin fini. Les femmes se lèvent le matin, beaucoup plus que les hommes. L'homme, c'est un grand paresseux. Une femme, elle a sa maison, elle a où son travail, sa maison, elle se lève. Comme d'habitude, c'est très rare les femmes fainéantes. J'ai eu peu de cas dans ma vie, j'ai entendu parler de femmes fainéantes qui restent au lit comme ça. C'est pas le genre. Peut-être quelques semaines après le mariage, et rapidement, elles prennent le pli et terminé. L'homme, la femme, ça la déstabilise. Une femme doit avoir confiance dans son mari, elle doit l'admirer. L'argument numéro un qui fait qu'elle elle l'admire plus, c'est qu'il la vête. Lève-toi. Qu'est-ce qu'elle pense de ton mari? Elle est depuis 7 heures, elle a fait déjà 3 heures de travail, monsieur est encore dans son livre vautré. Ça se travaille maintenant. Alors revenons à nos sujets. À quelle réponse je n'ai pas encore donné?
Comment vérifier?
Très difficile. Absolument. Donc il faut dévoiler le petit détail qui révélera qu'il y a un iceberg, d'accord? Alors, quand on va à Chitour, il faut bien sûr une ambiance cool, sympa, mais il faut sortir les antennes avec les senseurs, être à l'écoute de chaque tournure de phrase, de petits détails, parce que c'est vrai que quand même, en 2 heures, il y a des choses qui passent. Et on peut attraper des choses. Un Chitour, avant qu'il se conclue, il y a en moyenne au moins une 15aine d'heures d'interview. D'accord? 15 heures d'interview, tu connais bien la personne. Et il y a des choses qui vont passer. Et là, dès qu'on voit un truc qui sonne lampe d'alarme, c'est la peine d'être conseillé par des spécialistes, des personnes qui ont un peu l'expérience, et voir. Je n'ai pas de meilleure réponse à donner. Il y a bien sûr les enquêtes qu'on fait chez les gens qui connaissent la famille. Mais d'habitude, ils diront que du bien. Si on sait bien faire l'enquête, on pourra avoir vraiment chez vraiment dans les cercles plus éloignés des copains, copines qui connaissent, qui pourront, si quelqu'un ose, être la gentille balance et qui va te dire les problèmes qu'il peut y avoir. Mais d'habitude aussi, ça sera des lignes générales. Il n'y aura pas ça qui va dire, écoute, qu'il y a un gros problème. Mais au niveau du caractère, seulement la rencontre et l'interview quelques bonnes heures, quand nous-mêmes, on fait des enquêtes sur quelqu'un, d'accord? Au bout d'un moment, un garçon ou une fille demande une enquête sur le conjoint, candidat, très très poussé. On est là tout à un moment où il y a une impasse, on ne peut pas lui dire plus. C'est que lui, en allant à la rencontre, qui pourra effectivement juger et ressentir les choses. Et là, il faut être extrêmement vigilant. Dans la gentillesse, dans la sympathie, mais vigilant.
Et toi, à propos du physique, est-on en droit, pendant le chinois, d'envisager, de regarder vraiment scrupuleusement tous les détails de...
Shulchan Aruch, il dit comme ça. Il dit qu'on a le droit de regarder une femme. On n'a pas le droit de regarder les femmes. Mais pour se marier, oui. Un Tamid Chacham, c'est marqué, juste pour que tu saches le niveau de Tamid Chacham, il amènera avec lui un Amaret, un Ignar. Pour pas qu'il se fasse rouler. Un Tamid Chacham, tel que l'entend la Torah, il ne sait pas ce qu'est une femme. Tu l'amènes une borgne. Bon, c'est que les femmes sont toutes borgnes. Il ne se rend pas compte, il ne sait pas. Il n'a jamais vu une femme de sa vie. Elle boite. Bon, c'est comme ça que marchent les femmes. Il ne sait pas qu'est-ce que c'est comme ça d'énergumène une femme, d'accord? Je ne savais pas que les femmes étaient bossues comme ça et poilues. Ah, les femmes, c'est poilu. D'accord, ok. On parle un peu de la Gemara, je crois que c'est dans les cheveux. Bon, voilà. Et lui, il croit que c'est le standard normal. Donc, il faut amener lui avec un Tamid Chacham, on amène aussi un Ignar, quelqu'un qui habite à voir des femmes, il dit, elle est poilue. Ça ne passe pas. D'accord? Elle est boiteuse, elle est borgne. Bon, ça, c'est le cas idéal que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Alors là, la réalité comme ça, on peut la voir, mais pas de façon débauchée. Ça te répond? C'est bon?
Les interviews pour les Chidorim, est-ce que c'est plus de l'impro ou est-ce que c'est plus des choses qu'on prépare?
Ah, c'est de l'impro. Dans un Chidour normal... Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. On est très stressé avant. C'est le premier de sa vie, elle aussi, hyper stressée. Et alors, forcément, on est un peu tendu. Du coup, il y a des blancs. Vite, 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 la reprise. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas de quoi s'angoisser. D'accord, tout le monde s'angoisse beaucoup, mais c'est qu'un blanc, d'accord, c'est pas grave. Et puis, voilà. Non, ça doit être relax, sympa. Bon, ça sent... On se connaît pas, il y a beaucoup de choses. Allez, raconte-moi un peu ta vie, qui tu es, tout ça. Toi, raconte toi-même. Voilà, c'est pas. Ça n'est pas trop dur de trouver des sujets. il faut savoir quelle direction va prendre le shidour. Le premier shidour, ce n'est pas l'interview serrée sur les détails, d'accord ? C'est une prise de contact sympathique, voilà, pas plus. Deuxième, ça reste toujours très, très sympa, mais là on va commencer à parler plus des choses essentielles de la vie, comment tu vois le couple, comment tu vois l'éducation des enfants, qu'est-ce que tu comptes faire, qui c'est ça, les relations parents-enfants, la relation dans le couple, etc. Voilà. Et là après on va et on approfondit toujours dans cette direction, toujours dans une bonne humeur. C'est important qu'il y ait des blagues, un peu d'humour, tout ça c'est important. Il n'y a pas de chose qui peut plus baisser calmer la tension qu'une bonne blague, avec un mot sympa, d'accord.
Si on n'est pas un chouva, donc il y a un issour de rappeler ce qu'on a fait avant, et pour un chidour.
C'est pas issour, c'est pas. Non. C'est un bachouva, c'est conseiller. Un bachouva, on sait ce que ça veut dire, un bachouva. D'accord. Donc tu peux dire, je suis bachouva. Je viens de passer. Maintenant, si l'un des conjoints veut commencer à faire des investigations sur le passé, c'est déconseillé. Ça ne sert à rien. Et il y a des cas où ça fait beaucoup de mal. Je connais des cas personnellement où ça bousille le couple et ils ont divorcé pour finir. Parce que le type, il commence à réfléchir, et comme si, et quand c'était avec celui, alors comment, et ça. Et ça devient une obsession qui bousille tout. Ça va, ça a eu été, c'est passé, j'ai fait tchouva, mort, terminé. Ça n'a rien d'en parler, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas actuel. Ça ne sert à rien. Donc c'est déconseillé.
Est-ce qu'un religieux peut se marier avec une
balle tchouva ? Oui. Un religieux peut se marier avec une balle tchouva, mais à mon humble avis, c'est un diavad. Pourquoi ? Parce que le religieux d'habitude n'est pas assez motivé. Le balle tchouva est beaucoup plus motivé. D'habitude. Deuxième raison, c'est qu'on a des repères. On a des repères. Et lorsqu'un des deux n'a pas les repères, alors ça fait un petit déséquilibre. C'est pas forcé, encore une fois. C'est quand je vais prendre un exemple. Moi aussi, le rabbin Sonabach Ozerchon Levracha, il conseillait de se marier avec, si possible, de nouveau. C'est a priori, c'est pas du tout obligatoire, mais conseiller de même. Même ethnie, même t'es français, mais t'es avec une française. T'es américain, mais avec une américaine, t'es sud-américain, etc. Ça marche, mais il y a moins de distance, moins de ponts, il y a les repères communs. Bon, justement, vu que le couple, c'est une union entre deux personnes qui sont déjà différentes, entre un homme et une femme qui sont complètement différentes, donc moins il y aura de différence, plus facilement ça pourra se lier. Donc tu comprends qu'une américaine avec une française, une américaine avec un français, il y a beaucoup de repères qui sont différents, des blagues, des trucs, des acteurs, des machins. Donc, ok. Idem, Baal Tchouva est religieux. C'est pas le même monde. Donc, ça peut se faire. Il y a beaucoup de couples très réussis qui ont fonctionné comme cela. Mais a priori, je pensais mieux des Baal Tchouva avec Baal Tchouva et religieux avec religieux. Il faut afficher. Et pas, j'aime pas le terme. Ouais, on peut dévoiler, on va dire. On peut dévoiler notre calibre. Il faut pas passer pour un orgueilleux non plus. Mais si je te demande maintenant, qu'est-ce que tu penses ? C'est une question qui se pose dans les chidouchim. Quels sont tes défauts ? J'en ai aucun. Voilà, ça c'est le plus grand défaut. D'accord. Alors, tu peux afficher les qualités, lui dire, j'aime pas tellement parler de mes qualités, mais si tu me demandes, je veux dire que ce que je pense, peut-être, des points forts qu'il y a chez moi, les points sur lesquels je dois me travailler. Tu peux dire, ouais, c'est honnête, c'est bien, mais de nouveau, de façon naturelle, c'est certain que tu vas pas annoncer l'aurore dans toute son horreur. Tu vas simplement dire une partie en atténuant l'intensité de l'horreur. Mais c'est honnête, si elle te demande, c'est honnête. C'est pas bien de tout afficher. Parce que, vu qu'on sait que la personne est censée ne pas tout afficher, donc si tu affiches tout, elle se dit c'est qu'une partie de ce qu'il y a encore en dessous, donc ça fait très peur. Voilà.
Comment on peut vérifier les réactions, justement, dans des situations qui vont être difficiles plus tard ?
Il n'y a pas à vérifier. C'est une erreur. Il y a des gens qui veulent, des fois, voilà, mettre à l'épreuve le candidat conjoint, ils lui font une blague du genre, un truc terrible, voir est-ce qu'il va s'énerver ou pas. Ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas du tout. C'est méchant et bête.
Non, parce qu'une femme ou un homme peut paraître vraiment bien, sage, posé, pendant
bien, puis tout le monde sait.
Il va exploser.
Tout le monde sait que ça explosera. Je te mets le jeu au parfum. Ça explosera de toute façon, d'accord ? Plus ou moins fort. Et la personne d'habitude ne sait même pas à quel point ça va exploser, parce qu'elle-même n'a pas été dans sa vie confrontée. On n'est jamais confronté à un point tel que dans le couple. Donc même quelqu'un qui a l'habitude d'être calme, après le mariage, il devient nerveux. D'accord ? Là commence le vrai travail. De plus lui parler, comme on a dit, est-ce que tu es nerveuse de tempérament ? Elle te dira, oui, mais je me travaille. Bon, c'est déjà une indication. Moins qu'un temps, ça veut dire, est-ce que tes parents sont nerveux ?
La mauvaise foi aussi, comment repérer la mauvaise foi ?
Alors ça, c'est comme je dis, avec les antennes, au bout d'un moment, quelqu'un qui fait attention, dans 15 heures d'interview, tu peux voir à quel point la personne est honnête. Il y a une intuition, un flair, des repères comme ça, des petites choses qui passent, qui permettent de voir, de relativement bien juger la personne. Ok, messieurs. Et après tout, savoir que si nous en faisons cela, on pourra reconnaître au maximum 5% du candidat conjoint. Mais si ces 5% je le fais bien, j'ai confiance en Dieu pour les 95% restants. On ne pourra jamais, jamais savoir qui on a en face vraiment. Parce que d'abord, il y a l'affiche, il y a un jeu. Même si la personne est très honnête, elle ne va quand même pas donner tout son linge sale, elle ne va pas le laver en public. Deuxièmement, comme je viens de dire, elle-même ne sait pas quelles sont ses minotes, parce qu'elle n'a jamais été confrontée vraiment dans des situations difficiles, qu'il y aura forcément une fois qu'on sera marié. Pour ces deux raisons, nous ne savons pas qui on a en face. Donc on a confiance en Dieu, du moment où nous on fait notre boulot comme il faut. Je ne veux pas dire, ok, bah, c'est vu que c'est Dieu qui décide, j'y vais à l'aveuglette. Non, tu fais ton job comme il faut, tout ce que tu peux vérifier, tu dois le faire, tu vérifies bien, ça correspond, normalement, c'est bon jusqu'à 120 ans. Bon, là, ma zé, voilà, ma bas dans le bonheur. Bon, radonag, ma bien.